Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est aujourd'hui le premier dimanche de la Passion, c'est-à-dire que nous entrons dans cette quinzaine où nous méditons particulièrement la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église va nous mettre sous les yeux l'opposition radicale, violente, des princes, des prêtres, des scribes, des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, cette opposition à notre Seigneur. Pourquoi, quel est l'intérêt pour l'Église de nous rappeler cela? Parce que, à l'évidence, il y a ceux qui vivent de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et ceux qui n'en vivent pas. On pourrait dire, il y a ceux qui sont marqués par la croix de notre Seigneur et ceux qui ne sont pas marqués. À l'évidence, la Très Sainte Vierge était marquée par le signe de la croix. Et c'est pourquoi on la trouve si fidèle au pied de la croix, debout, unie à son Fils, ayant parfaitement compris le mystère. Et à l'évidence, les Juifs qui branlent du chef et se moquent de notre Seigneur Jésus-Christ, eux, ne sont pas marqués du signe de la croix. Comment sommes-nous marqués du signe de la croix? Parce que c'est important cela. Je continue la méditation sur la messe que nous avons commencée il y a deux dimanches avec le sermon de Monseigneur Lefebvre. Et pour bien comprendre la messe, il faut comprendre cela que l'Église nous montre durant la semaine de la Passion, la semaine sainte. Comment on vit quand on est marqué du signe de la croix? Comment est-on marqué du signe de la croix? Cela commence par le baptême. Le baptême est ce qui nous introduit au calvaire. Pourquoi? Parce que le calvaire est un mystère d'une grande noblesse. Le mystère du calvaire est saint trois fois saint. C'est le mystère du Fils de Dieu avec son Père. Cet échange d'amour du Fils de Dieu avec son Père. C'est cela d'abord le mystère du calvaire. Ne voyons pas le calvaire d'abord par rapport à nous. Voyons d'abord le calvaire comme un grand mystère d'adoration, certes, mais aussi et surtout même d'amour de Jésus, le Fils de Dieu, avec son Père. Or, Jésus nous invite à entrer dans ce mystère. Ce fut symbolisé dans l'Ancien Testament par le buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Lorsque Moïse voulut approcher de ce buisson, Dieu lui dit: Déchausse-toi. Tu entres dans un lieu saint, tu ne peux pas entrer avec des pensées profanes. Nous devons bien nous rendre compte à quel point ce mystère de la croix, auquel nous sommes habitués, qui est devenu pour nous presque normal dans notre vie, à quel point il est un grand mystère élevé, sublime, et qu'il faut l'âme préparer pour y entrer. Et c'est une grâce incommensurable que Dieu nous permette d'entrer dans ce saint des saints qu'est le cœur à cœur de Jésus avec son Père. Encore une fois, ne voyons pas la vie chrétienne ou l'incarnation premièrement par rapport à nous. Que Dieu nous fait-il? Il nous donne la grâce, il nous donne ceci, il nous donne cela. Voyons vraiment la vie chrétienne comme une invitation de Dieu à partager le mystère de son Fils et, dans l'incarnation, dans la vie de son Fils, le mystère des mystères, à savoir ce grand échange d'amour entre son Fils et Dieu le Père. Pour que l'âme soit préparée, pour qu'elle soit purifiée des pensées profanes, pour qu'elle soit arrachée au monde, à la domination du démon, il faut le baptême. Et le baptême est particulièrement lié à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le méditerons à la fin de la veillée pascale, lorsque nous renouvellerons les promesses du baptême. L'Église nous expliquera brièvement que nous avons été ensevelis avec notre Seigneur dans la mort et que nous sommes ressuscités avec lui dans la résurrection. Si vous voyez un baptistère ancien, il y en a un à Saint-Jean-de-Latran à Rome, la cathédrale du pape. Il y en a un à Poitiers également, à la cathédrale de Poitiers, enfin juste à côté. Le baptistère est une piscine avec des marches de deux côtés. On entre d'un côté. On entre avec les habits profanes, avec les pensées profanes. On entre surtout en étant encore esclave du démon. Dans la piscine, l'évêque verse de l'eau sur la tête, et quand c'est une piscine, il peut verser un peu en abondance. C'est le symbole du vieil homme qui est noyé, qui meurt, et qui meurt dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de l'autre côté, le nouveau baptisé ressort, à l'opposé bien sûr, par les autres marches, et là, il est marqué, et d'abord il est vêtu d'un vêtement blanc, mais surtout il est marqué par le Saint-Crème. Le Saint-Crème qui est l'onction royale, l'onction des évêques, l'onction du Saint-Esprit, le signe surtout de la consécration. Un évêque est consacré, un roi est consacré, un calice est consacré, le chrétien est consacré. Et il est consacré au grand mystère de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ en attendant la résurrection. Ceci nous introduit au sacrement de confirmation qui va compléter, confirmer, compléter, achever cette onction du Saint-Crème qui jusqu'alors n'était pas sacramentelle. Elle ne faisait que désigner le caractère sacré du chrétien. Voici que dans la confirmation, elle est sacramentelle. Et là encore, quelque chose d'extraordinaire, le Saint-Esprit en personne vient nous introduire dans le mystère de Jésus. Ce mystère est tellement sublime qu'il ne fallait pas moins du Saint-Esprit pour nous y faire entrer. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire comprendre ce mystère. C'est le Saint-Esprit qui va nous le faire goûter d'une part, mais surtout comprendre, qui va nous introduire dans le Saint des Saints. J'ai été frappé Monseigneur Lefebvre parlait très souvent de la croix et on avait l'impression qu'arrivé au seuil du mystère, il s'effaçait. Il parlait de l'importance de la croix, il parlait de la messe qui ouvre la porte sur le calvaire, et là il se taisait, il s'effaçait. Bien entendu, ce mystère est beaucoup trop grand pour que des hommes puissent totalement l'exprimer. Il nous mène au mystère, le prêtre, l'évêque mène au mystère, il donne le mystère. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut ouvrir l'intelligence d'un si grand mystère. Et lorsque l'évêque confirme celui qui n'était encore que baptisé, Signo te signo crucis et confirmo te chrismate salutis. Je te signe, c'est-à-dire je te marque du signe de la croix et je te confirme par le crème du salut. Là encore, le signe de la croix est intimement lié à l'action du Saint-Esprit puisque l'action du Saint-Esprit a pour but de nous introduire dans le mystère de la croix. Avec le don de sagesse, premier et le plus beau de tous les dons, qui nous fait comprendre et goûter cette merveille. Le sacrement de pénitence, que les pères de l'Église appellent la deuxième planche de salut, une sorte de deuxième baptême, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ est tellement riche qu'il purifie ceux qui n'ont pas été fidèles. Nous sommes introduits dans le mystère et malheureusement, nous, comme les mauvais anges, nous n'entrons pas pleinement, nous ne voulons pas entrer pleinement. Nous sommes obligés, nous sommes tirés un petit peu malgré nous. Et quelquefois, ça peut être grave. C'est le sang de notre Seigneur qui nous lave. Ce mystère est tellement grand qu'il nous purifie pour de nouveau nous faire entrer dedans, dans le mystère. Le dernier sacrement pour tous les fidèles, c'est le sacrement de l'extrême-onction, avec des onctions en forme de croix toujours, sur les cinq sens. C'est le sacrement par lequel le chrétien récapitule toute sa vie et l'offre une dernière fois à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, ou plutôt à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Normalement, le chrétien a fait cela toute sa vie. Toute sa vie, il a été pénétré de ce mystère, de la grandeur, de la richesse du mystère de la croix. S'il a été occupé à des œuvres extérieures, c'était toujours en gardant les yeux sur la croix. Il descendait dans le monde, je vais vous l'expliquer à propos du mariage. Il descendait dans le monde, mais pour ramener à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien est un apôtre, c'est-à-dire que sa fierté de la croix, son amour de la croix, rayonne et fait découvrir le secret de son cœur. Et c'est ainsi que lui aussi collabore à l'apostolat de Jésus-Christ et à l'apostolat de l'Église. Lorsqu'arrive le terme de sa vie, une dernière fois, il récapitule tout, il ramasse tout, et comme notre Seigneur Jésus-Christ, il dit tout est consommé, le compte y est, et il offre cela à Dieu le Père. Il meurt en union avec la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'il va entrer dans l'éternité. Mais ce sacrement, qui est le dernier, n'est pas le but. Le but, c'est la croix, c'est-à-dire le sacrement de la messe, l'Eucharistie, qui, lui, est la fin de tout cela. le sacrement de l'Eucharistie, parce que c'est la messe qui est un sacrement, n'est-ce pas? La communion est une manière de participer à la messe sacramentelle et sacrificielle. La messe qui est un sacrifice sous forme de sacrement auquel nous participons par la communion sacramentelle, par la communion spirituelle, par la communion dans la foi, dans la charité. Même le dernier des sacrements, à savoir l'extrême-onction, quoique le dernier n'est pas le sommet. Il est une manière de reprendre tout à la vie, comme je vous l'ai dit, pour l'offrir à notre Seigneur. Et vous voyez que nous sommes marqués par la croix et donc par la messe dès le début, enfin tout au long de notre vie. Le but de la messe, c'est cela, de nous marquer. Et il reste deux sacrements, le sacrement de l'ordre et le sacrement de mariage. Le sacrement de l'ordre, c'est très facile à comprendre, c'est celui par lequel notre Seigneur a consacré les prêtres, a marqué de la croix, a donné le sacrement qui marque de la croix tous les fidèles. C'est le sacrement par lequel le prêtre, surtout, célèbre la messe. Le prêtre est avant tout l'homme de la messe, avant d'être l'homme de l'apostolat. Et même son apostolat, je vous l'ai dit tout à l'heure, est en référence à la messe. S'il descend dans cette vallée de larmes, ce n'est pas qu'il préfère les larmes à la beauté du calvaire, c'est que justement, il fait descendre la beauté du calvaire avec lui dans la vallée de larmes. Et il transforme les larmes amères en des larmes de joie, et il transforme cette vallée d'ici-bas de souffrance comme le chemin, la voie royale, en union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il reste le sacrement de mariage, qui lui aussi est tout entier relatif à ce grand mystère du calvaire. Saint Paul le dit, ce mystère est grand, je le dis dans le Christ et dans l'Église, comme le Christ a aimé l'Église, ainsi Marie aimait votre femme, etc. Et tous les pères de l'Église nous disent, sur la croix, notre Seigneur a rendu l'Église féconde. Ce sont des comparaisons auxquelles on n'est plus tellement habitué. Je pense qu'il faudrait dire exactement la même chose, mais dans un langage plus moderne. À savoir que, sur la croix, notre Seigneur a donné à l'Église ce pouvoir qui vient d'elle, de faire entrer dans la vie divine, la vie éternelle, la vie divine, qui commence dès ici-bas. Ce que je viens de vous dire, à propos du prêtre, mais également à propos de l'apostolat laïque, c'est du même ordre, c'est pas la même nature bien sûr, mais c'est du même ordre. Les parents vont engendrer, mais il est évident qu'ils engendrent à la grâce, à la vertu, ils forment les chrétiens, ils forment celui qui a besoin d'être guidé. Tout d'abord, sont eux qui présentent l'enfant au baptême, et quand ils l'ont présenté, ils ont la responsabilité de le guider, de le guider tant qu'il est petit, vers les autres sacrements. Heureusement que le papa, la maman, s'occupent de la confirmation, de la première confession, des premières messes, des communions à la messe, et ils guident par la vertu. C'est-à-dire, on a oublié ça, l'importance de la vertu. Ils font en sorte que le petit chrétien se conduise comme il convient à celui qui est invité à ce grand mystère, de grand mystère d'amour de notre Seigneur avec son Père. Nous sommes invités chez le roi et nous devons avoir la robe nuptiale. La robe nuptiale, ce sont les vertus, c'est notre comportement. Il est évident que ce n'est pas une simple robe. Et surtout, il est évident que ce n'est pas une chose qu'on fait une fois et qui permette, une fois pour toutes, d'entrer dans le mystère. La robe nuptiale, c'est un comportement. C'est le comportement des fils de Dieu. C'est le comportement des fils du roi, du grand roi du ciel et de la terre. Et les parents sont chargés de diriger, de former ce comportement chez les enfants. Et pas que chez les enfants, je vous garantis. Qu'ils continuent toute leur vie et que quel que soit l'âge du père et du fils, de la mère et de son fils, on reste toujours le fils de son père et le fils de sa mère, je vous le garantis. Et c'est pourquoi ce mystère est grand dans le Christ et dans l'Église, le mystère de la croix. Et c'est pourquoi les époux sont consacrés. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas divorcer. Après tout, on pourrait peut-être envisager, en droit naturel, de tirer la leçon d'un mariage malheureux, que sais-je. Mais là, le mystère est tellement grand que si les époux pouvaient divorcer, alors c'est que le Christ pourrait divorcer de son Église. C'est pourquoi c'est très grave, l'atteinte moderne à la famille et l'atteinte à l'indissolubilité du mariage par le pape François aujourd'hui. Oh, il le fait sans le faire, tout en le faisant, de manière à ce qu'on ne puisse pas l'attaquer de front, n'empêche qu'il le fait bien. Et pauvres cardinaux et évêques qui n'ont pas su réagir quand il le fallait, lorsque l'honneur de notre Seigneur était en jeu, qui n'ont pas su réagir quand la messe bafouait notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'ont pas su réagir lorsque l'œcuménisme bafouait la royauté de notre Seigneur qui règne sur son trône de la croix. Alors maintenant, ils sont tous désemparés. Voici que la famille est attaquée. Cela les touche, ils veulent réagir, mais ils sont désemparés, ils n'ont pas su faire quand il fallait, et ils ne savent pas plus faire maintenant, maintenant que les choses les horrifient. C'est pourquoi cette réaction est stérile. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas les convertir, mais quand Dieu les convertira, ils reviendront à cet honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, cet honneur de la croix, et ils restaureront toutes choses par rapport à ce grand mystère. Ils restaureront la famille, mais pas seulement la famille. Ils restaureront le sacerdoce. Quand on pense que le pape Benoît XVI avait posé la question pour savoir s'il ne pourrait pas y avoir des prêtres à temps partiel, parce que le prêtre est un concept. On restera le sacerdoce, pas seulement la famille. On restera surtout les grands mystères, le grand mystère de la messe par rapport au mystère de la croix. Je vous ai parlé de la Sainte Vierge au début. Il est évident que puisqu'elle a été marquée par le signe de la croix dès le début, dès sa conception, au moment de la conception, le démon s'est approché d'elle pour la prendre, pensant qu'elle était elle aussi sa proie. Et Dieu lui dit, non, tu ne la toucheras même pas. La Sainte Vierge n'a pas été purifiée du péché originel dès le premier instant de sa conception, elle a été préservée du péché originel. Non, éloigne-toi, Satan, tu ne la toucheras pas. Celle-ci, c'est ma mère, je la marque. Et depuis ce moment, la Sainte Vierge est le pape, l'encyclique qui définit la définition, pardon, de l'Immaculée Conception, le pape Pie IX, dit que la Sainte Vierge a été purifiée en prévision des mérites de son fils. C'est-à-dire que le mystère de la croix, les mérites de son fils, le mystère de la croix, l'a marqué par avance. Elle l'a marqué totalement. C'est pourquoi toute la vie chrétienne doit être une vie mariale, parce que la Sainte Vierge nous introduit maternellement dans ce grand mystère. Dimanche prochain, je vous en parlerai, je ferai un dernier sermon sur ce sujet, pour vous expliquer qu'il y a dans la croix beaucoup plus de joie que de peine, que la croix, justement, détruit la peine en y mettant la joie. Mais n'anticipons pas, bonne semaine de la Passion, nous sommes en union de prière avec vous tous, et je pense à vous particulièrement, à la messe que je célèbre ce dimanche, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.